Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine, le 90.9 FM et les www.radio-ondaine.fr. Aujourd'hui, nous réalisons cette émission au pôle jeune de la Ricamarie dans le quartier du Moncel. Et la jeunesse peut évoquer l'école et à partir de là, le collège, et précisément le collège Jules Vallès de la Ricamarie. Et en ce vendredi 6 novembre, tous les délégués des différentes classes de la 6e à la 3e se retrouvent aujourd'hui pour une journée de formation. Et dans le programme de cette journée, nous ouvrons une petite parenthèse pour parler d'égalité. D'égalité entre filles et garçons, de relations aussi, des relations sociales, des relations intimes. Et ça, c'est avec Fabienne, qui est animatrice au planning familial de la Loire, qui s'est déplacée, qui est sortie de ses bureaux de Saint-Étienne. Elle en a l'habitude de sortir de ses bureaux de Saint-Étienne pour venir ici à la Ricamarie. Fabienne, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Le planning familial, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le planning familial, c'est une association qui existe dans tous les départements et donc dans la Loire. Et c'est une association qui défend le droit à la contraception, à l'avortement et fait de l'éducation à la sexualité. Alors, on va parler de sexualité. Est-ce que vous savez où il est le planning familial à Saint-Étienne, par exemple ? Personne ne sait où est le planning familial à Saint-Étienne ? Alors, vous êtes collégien. C'est vrai que pour des collégiens, on voit rarement des collégiens en planning familial, mais des fois un petit peu. Donc, le planning familial, il est dans le quartier Tarentaise. Vous voyez où c'est le quartier Tarentaise, Beaubrun ? Est-ce que vous avez une petite idée quand même de ce qu'on peut venir faire au planning familial ?
Le planning familial, pourtant, c'est connu parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps.
Exactement, le planning familial, ça fait 60 ans que ça existe, 60 ans qu'on, donc 62 ans à Saint-Étienne. Et depuis 60 ans, ben, on fait plein de choses. Notamment, on accueille plein de jeunes donc à Saint-Étienne qui peuvent venir poser des questions. Tout ça, c'est gratuit. C'est sans rendez-vous et c'est confidentiel. Vous savez ce que ça veut dire, confidentiel ?
C'est quand on le dit à personne.
C'est quand on le dit à personne. Effectivement, si vous venez au planning familial et vous venez parler de quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne redira pas ni au collège, ni à vos parents, ni à vos amis. Ça reste au planning familial. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir poser comme question ou venir faire au planning familial ? Est-ce que vous avez une idée, puisqu'on parle de sexualité ?
Des relations sexuelles.
Exactement. On peut venir poser des questions sur la relation sexuelle. Mais la relation sexuelle, c'est large. Ça peut être des questions sur comment on fait pour draguer des garçons, des filles, comment on est fait, notre sexe, il est fait, comment ça se passe le premier bisou, comment ça se passe les premières caresses ou comment ça se passe aussi la première fois qu'on fait l'amour. Ça peut être des choses comme ça. On peut aussi venir chercher des préservatifs, c'est toujours gratuit et on prend le temps d'expliquer comment on peut mettre un préservatif.
Alors du coup, peut-être la question qui me viendrait moi à l'esprit, pourquoi le planning familial a-t-il été créé finalement ? Pourquoi on n'a pas ces réponses-là dans le cercle familial, dans le cercle amical ? Et quel est ce rôle-là qu'a ce planning familial à Saint-Étienne et même ailleurs ?
Alors au départ, le planning familial a été créé pour offrir un espace pour que les personnes aient accès à la contraception. Parce que vous voyez ce que c'est la contraception ? C'est quoi la contraception ?
C'est quand, quand on fait un rapport sexuel, on a une chose qui fait que on va pas tomber enceinte.
Exactement. Et vous pensez que ça fait longtemps qu'on a accès à la contraception ou pas très longtemps ? Depuis combien de temps les gens ont accès à la contraception, les femmes surtout ?
15-18 ans.
15-18 ans, donc ça serait des années 2000.
Des années 2000.
Ensuite, d'autres dates ? Est-ce que d'autres ont envie de proposer des dates ?
30 ans.
30 ans.
Oui, on se rapproche. C'est depuis les années 1975-1960 à peu près que tout ça, on a accès à la contraception, à l'avortement. Mais pour vous, ça paraît longtemps, mais en fait, pour une génération, c'est pas si longtemps que ça. Ça fait moins de 100 ans que les gens ils ont accès à la contraception. Et donc, le planning existe aussi pour que les femmes puissent avoir accès à ça et donc avoir une sexualité sans avoir peur de tomber enceinte ou alors d'avoir une grossesse en ayant le choix de la garder ou pas. Et puis, petit à petit, le planning s'est développé sur plein d'autres choses et notamment offre des espaces pour parler de sexualité. Parce que où est-ce qu'on peut parler de sexualité ? Où est-ce qu'on peut en parler ?
À l'école.
Alors, on peut parler à l'école. On peut en parler avec qui ? Avec ses copains, ses copines ou aussi avec les profs ?
Avec les profs !
On peut poser plein de questions aux profs. Par exemple, je suis amoureux et j'aimerais bien réussir à draguer ou des choses comme ça. On peut en parler aux profs ? Non.
Alors moi, à mon avis, c'est vrai que c'est toujours quelque chose. Voilà, c'est une personne qu'on connaît, qu'on croise au quotidien, et c'est difficile parce qu'on n'a peut-être pas envie de dévoiler toute ça dans son intimité. Alors les professionnels, parce que ce sont des professionnels qui travaillent au planning familial. Qui sont-ils ?
Alors au planning familial, on a des conseillères conjugales et familiales qui vous accueillent tous les jours sans rendez-vous, c'est gratuit, et qui vous accueillent pour être un espace d'écoute et de conseils, qui partent de vos questions avec vos propres mots. Et voilà, il y a plein de jeunes de votre âge aussi qui viennent souvent en groupe pour ou parfois tout seul si on veut parler de sa propre vie personnelle, mais des fois en groupe pour s'amuser, pour rigoler. Madame, comment on fait, voilà, quand on a envie d'avoir un premier rapport sexuel. Ce sont des gens qui sont là sans jugement, en bienveillance, et qui vous écouteront, voilà, sans vous juger sur votre orientation sexuelle, ce que vous faites, sur votre religion. Il n'y a aucun jugement.
Alors, si l'on parle du planning familial dans son fonctionnement, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est qu'on vient sans rendez-vous. On peut venir comme ça, on n'a pas besoin de noter une date, on a une question qui nous traverse l'esprit, on y réfléchit depuis un petit moment, et ben on peut ouvrir la porte et on sera accueilli par quelqu'un, c'est ça ?
Exactement, vous pouvez venir quand vous voulez, pendant les vacances scolaires, les mercredis après-midi. On est même ouvert des fois jusqu'à 19h30, si vous voulez passer après le collège. Et ben on répondra toujours à vos questions.
Alors, le planning familial s'adresse aux adolescents et aux adultes aussi. Si on balaye un peu les personnes qui viennent vous voir, si on parle de statistiques, est-ce qu'on en a des statistiques ? Quelles sont les tranches d'âge qui viennent plus souvent vous voir ?
Alors, au planning de Saint-Étienne, déjà, on en reçoit beaucoup de monde. On reçoit 17 529 personnes, donc l'année dernière, en entretien individuel. Ça fait beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, il y a beaucoup de jeunes et des mineurs, notamment. Pourquoi ? Parce que c'est important d'avoir un espace pour un mineur pour venir chercher la contraception, les préservatifs, poser des questions, puisque nous avons aussi des médecins qui sont plutôt orientés sur la gynécologie et qui vont pouvoir délivrer une pilule ou un autre moyen de contraception, puisqu'on peut choisir, même quand on est jeune, qui vont aussi pouvoir nous aider si on a des douleurs de règles ou bien même si on a des boutons sur le sexe, si ça gratte, des choses comme ça. On peut venir quand on est une fille, mais quand on est un garçon aussi. Oui, ça fait rire, mais c'est important de savoir qu'on peut... C'est normal de rigoler parce que le sexe, ça fait toujours un petit peu rire. Alors, rigoler, par contre, on ne se juge pas. Mais donc, on a beaucoup de jeunes, mais on a aussi des moins jeunes. On a des publics adultes, puisque on a toujours des questions sur la sexualité. Et puis, jusqu'à quel âge on peut faire l'amour ?
De 15 ans jusqu'à la mort.
De 15 ans jusqu'à la mort.
De 15 ans jusqu'à la mort.
Jusqu'à 90 ans.
Jusqu'à 90 ans. Alors, oui. Pour faire l'amour, on peut aller jusqu'à 90 ans, même plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour faire l'amour ? À partir de quand on peut faire l'amour ? Et qu'est-ce qu'il faut pour faire l'amour ? Est-ce que c'est une question d'âge ?
Il faut déjà, pour la fille, avoir ses règles, parce que sinon, ça ne marche pas, je pense. Enfin, après, c'est juste que quand elle a un rapport, elle peut tomber enceinte quand elle a ses règles, enfin, quand elle les a eues.
Oui, quand il y a des règles, on a le risque d'une grossesse, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Et toi, tu as dit 15 ans. Est-ce qu'à partir de 15 ans, ça y est, on doit faire l'amour ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire l'amour ?
Un pénis !
Pas forcément. Il y a aussi des gens qui font l'amour et ils n'ont pas de pénis. Par exemple, deux femmes peuvent faire l'amour, elles n'ont pas de pénis. Alors, c'est juste une question d'âge. Il faut avoir trouvé quelqu'un qui nous plaît ? Non. Il y a une question d'envie et il y a une question aussi de consentement. Il faut qu'on ait envie de faire l'amour avec l'autre. Il faut que l'autre ait envie de faire l'amour avec nous. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Au planning familial, on voit des gens qui ont tout âge. Mais parce qu'à tout âge, on peut avoir des questions, on peut avoir envie. Et on peut aussi se poser des questions sur le consentement. Puisqu'au planning familial, on parle beaucoup de sexualité. Donc, beaucoup aussi lié au plaisir, puisque la sexualité, c'est aussi du plaisir. Mais parfois, on va venir aussi poser des questions par rapport à des moments qui se sont passés où on n'était pas consentant. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, consentant ?
C'est quand on n'est pas d'accord.
Alors, consentant, c'est quand on est d'accord, précisément. Et lorsqu'on n'est pas consentant, c'est qu'on n'est pas d'accord.
Voilà. Au planning, on est aussi un lieu d'écoute pour parler quand on nous a forcé à faire quelque chose, et pas forcément quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais ça peut être aussi un ami, un amoureux. Ces choses-là, c'est important d'en parler, des violences sexuelles. Donc c'est un lieu d'écoute pour ça, pour aussi réorienter s'il y a besoin.
Alors justement, sur les partenariats et le réseau qui se tisse autour du planning familial, quel est-il ? On vient une fois, on a une question, on a une interrogation, on peut aussi exposer un problème, un vécu douloureux ou non, mais on a ces questions-là et puis on est reçu individuellement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? On peut avoir une réponse ponctuelle, mais si jamais ça mérite d'avoir un suivi, entre guillemets, quel est votre réseau autour du planning familial ?
Alors au planning familial, on peut venir une fois juste pour une question, ou on peut être suivi, effectivement, on peut être suivi par la même personne. Vous, on n'est pas très nombreuses, on est une petite quinzaine, donc vous nous repérez, on peut être suivi plusieurs fois par la même personne. Et puis après, on a des réseaux autour du planning familial qui vont peut-être nous accompagner sur tout ce qui est violence sexuelle, qui vont nous accompagner, par exemple, si on a des difficultés au niveau du harcèlement, si on est un petit peu pas bien, un petit peu déprimé, on a des réseaux de professionnels qui peuvent aussi prendre le relais, puisque nous, on est vraiment spécialisés dans la sexualité, mais peut-être moins sur certaines choses, mais on est là depuis 60 ans à Saint-Étienne, donc on travaille très bien avec SOS Violence Conjugale 42, le CIDFF, plein d'associations qui sont à Saint-Étienne, la Maison des Adolescents.
Alors notamment un protocole commun entre SOS Violence Conjugale 42 et le planning familial qui est Lien sans violence. C'est un protocole qui a été signé, ce qui prouve qu'en fait vous allez au planning familial, mais ce n'est pas qu'un groupe de personnes, c'est aussi un réseau qu'il y a autour. Alors moi, pour continuer sur la présentation du planning familial et notamment celui de la Loire, celui qui est situé à Tarentaise, à Saint-Étienne, quand vous accueillez le public, alors on imagine que des gens peuvent avoir un peu peur de rentrer, un peu de timidité, un peu d'appréhension. Sur place, si on devait décrire le lieu et les différentes pièces, comment vous feriez ?
Alors, je vais vous parler hors Covid, parce que là, en temps de Covid, c'est un petit peu différent. Mais le planning familial, c'est un petit peu comme à la maison. Il y a des canapés, on peut servir le café, le thé. On vient comme on est. Les gens n'ont pas de blouse, les médecins n'ont pas de blouse. La plupart du temps, quand on vient, c'est pour discuter. Par exemple, si on vient voir un médecin, il ne faut pas avoir peur. Au planning familial, on ne va pas faire un examen du corps, etc. La plupart du temps, c'est aussi pour poser des questions. Si on veut une pilule, c'est un échange. Donc, c'est des petits bureaux qui sont confidentiels, où il y a plein de couleurs. Et on peut rester, par exemple, si on a une question, on peut rester 5 minutes. Si on vient faire, par exemple, un dépistage, vous voyez ce que c'est le dépistage ?
Pour savoir si on a le sida.
Oui, c'est pour savoir si on a attrapé même une maladie sexuellement transmissible, une infection sexuellement transmissible, puisqu'il n'y a pas que le sida. Si on vient pour savoir si on a attrapé une infection sexuellement transmissible, on va vous poser quelques questions, puis après on vous enverra faire une prise de sang. Ça peut durer 5-10 minutes. Mais si on a une grande question sur comment ça peut se passer la première fois qu'on a un rapport sexuel, on peut rester 20 minutes, une demi-heure, une heure, revenir une semaine après. Par exemple, si on veut faire un test de grossesse parce qu'on est un peu stressé, parce qu'on n'a pas ses règles, on peut revenir aussi pour reparler de ça, pour reparler de la contraception. Donc voilà, c'est comme à la maison, le planning familial. Vous pouvez aussi nous appeler. Si vous êtes à la Ricamari, parfois c'est pas toujours facile d'aller à Saint-Étienne. On a un numéro de téléphone, je sais pas.
Vous le donnez.
Donc c'est 04 77 25 24 91, mais je vous donnerai un petit papier. Et puis aussi, il y a un numéro vert si jamais vous aviez des questions, par exemple le samedi ou le soir. Parce que parfois, quand on est couché, tout ça, on va regarder Internet. Mais Internet, attention, il y a plein de réponses un peu farfelues. Des fois, c'est bien d'avoir des professionnels au bout du fil. On a un numéro vert qui peut vous répondre le soir et les week-ends. Je vous donne aussi le numéro, mais je vous le redonnerai après. C'est 0800 08 11 11. Donc, c'est des professionnels du planning familial qui répondent à toutes vos questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions.
Alors peut-être moi une question que peuvent se poser les adolescents ici présents et peut-être nos auditeurs. On a toujours un peu cette notion dans le cercle familial d'aller voir le médecin de famille. Le médecin de famille, on y va, on demande à nos parents de prendre rendez-vous, hein, c'est plus pratique. Et là, finalement, on va se retrouver face à un médecin. Et si on a un public adolescent qui souhaite venir, ce côté anonyme, ce côté secret médical, il est vraiment défendu ici, comme tout médecin, et surtout au planning familial.
Alors, c'est dans la loi. Un mineur, donc vous, qui veut poser une question à un médecin ou veut faire un dépistage ou veut prendre une contraception, il peut y aller sans l'avis de ses parents et ça reste secret professionnel. Donc oui, c'est défendu. Si un jour je vous revois dans la rue, ben, excusez-moi, je ne vous dirai pas bonjour si vous êtes avec votre famille parce que je ne vous connais pas. Si vos parents appellent, je ne vous connais pas. On ne donne aucune information par téléphone. Et si vous-même vous revenez une fois avec vos amis et que vous étiez déjà venu, on fait comme si on ne vous connaissait pas parce que ça vous appartient. Si vous êtes venu poser une question, par exemple, sur un avortement, si vous revenez avec des amis plus tard, ils n'ont pas à savoir. Tout ça, c'est important que vous sachiez que là-bas, c'est vraiment garder le secret. Il n'y a que pour la mise en danger donc des mineurs, donc notamment sur des questions de violence sexuelle, que là, on doit en référer à la loi et donc à la justice. Et donc, si vous venez nous dire que voilà, vous avez été victime de violences sexuelles et si vous êtes mineur, là, on ne peut pas garder le secret professionnel, mais c'est pour vous mettre en sécurité.
Alors pourquoi c'est important une structure telle que le planning familial donc à Saint-Étienne? On peut aussi noter qu'à l'hôpital de Firminy, au sein de l'hôpital, il y a également un service qui peut accueillir les jeunes, qui peut faire écho aussi à ce que fait le planning familial. Pourquoi ça aujourd'hui, en 2020, pourquoi c'est encore important?
Alors normalement, ça a été voté aussi. Tous les enfants, les élèves, doivent avoir 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. Alors, par exemple, vous, là, il y a des 6e, 5e, 3e, 4e. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective.
Alors, peut-être un oui ou un non, et on fera le... Dites oui ceux qui ont eu déjà ce cours-là. Dites non ceux qui ne l'ont pas eu. C'est 50-50. Et en plus, les voix ne sont pas les mêmes, donc on peut imaginer que c'est tous les âges.
Pour nous, c'est important d'offrir des espaces où tout le monde peut échanger sur ces questions-là, sur comment on se comporte vis-à-vis des filles, des garçons, sur le consentement, sur l'égalité homme-femme, sur les risques d'une grossesse, mais aussi sur le plaisir, parce que c'est important aussi de dire que la sexualité, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est pas parce qu'on est en couple, c'est aussi pour se faire plaisir à deux, pour se faire plaisir seul. Et c'est important aussi, puisque vous voyez, des fois, c'est important pour nous de mettre en place des outils pour lutter contre les violences, contre les discriminations contre les femmes, par exemple, mais aussi contre les minorités sexuelles. Tout à l'heure, vous avez rigolé quand j'ai dit 2 femmes qui peuvent faire l'amour ensemble. Voilà, pour nous, c'est important aussi qu'on puisse en parler pour rappeler que toutes les sexualités sont possibles et faire en sorte que le vivre ensemble soit un petit peu plus simple, plus facile pour tout le monde.
Alors moi, j'aurais une question un peu dans le sens de celle que je viens de vous poser. C'est pourquoi est-il important d'aller au planning familial lorsqu'on se pose toutes les questions qui peuvent nous traverser l'esprit et toutes les situations que l'on peut vivre, qui rentrent bien sûr dans le contexte du champ d'action du planning familial.
C'est vraiment un espace non jugeant, gratuit, sécurisé, où on peut poser toutes les questions et on peut y revenir quand on veut. Voilà, c'est un lieu, quand vous déménagerez, peut-être si un jour vous allez vivre à Paris, à Lyon, à Bordeaux, vous retrouverez le planning familial avec ce même environnement. Et c'est important aussi d'avoir un espace où on peut vraiment poser ces questions-là. Pourquoi ? Parce que souvent, on met la sexualité vraiment comme quelque chose de pas important. Mais parfois, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête aussi, parce que on est bien dans sa vie amoureuse, dans sa vie sexuelle. Il y a bien sûr la réussite scolaire, je sais pas, la réussite professionnelle, le toit, la santé, mais la santé, c'est aussi la santé sexuelle.
Alors, pour connaître un peu ce planning familial stéphanois, qui êtes-vous, Fabienne ? Pourquoi, en fait, finalement, vous travaillez, vous, au planning familial ? Quel est votre métier précisément ? Et puis, qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver au planning familial pour un peu faire connaître entre une partie des gens qui travaillent au planning ?
Alors, je précise aussi que le planning familial, donc c'est dans tous les départements. Donc, nous, on a une antenne à Saint-Étienne qui est ouverte toute la semaine. Mais on est aussi, donc, bon, vous habitez la Ricamarie, c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais il y en a aussi à Saint-Chamond, à Rive-de-Gier, Andrézieux-Boutéon, une permanence à Montbrison. Voilà, on n'est pas beaucoup sur l'Ondaine, mais voilà, comme on n'est pas très loin de Saint-Étienne. Donc, ben, moi, je fais beaucoup d'animation scolaire, d'animation de groupe, avec tout type d'âge, ben, comme je vous disais, pour ouvrir des espaces pour que les gens puissent discuter de ces questions-là, de comment on fait quand on est amoureux, comment on fait quand on a envie d'avoir une relation sexuelle, mais aussi quand on est marié, qu'on a envie d'avoir des enfants, qu'on a été harcelé dans la rue, etc. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'espace pour parler de ça. Je ne sais pas, c'est difficile parfois d'en parler avec ses parents. C'est possible d'en parler avec ses parents ? Ouais. On peut dire à ses parents, bah, je suis amoureux et j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça va se passer par la suite. Donc il n'y a pas trop d'espace pour parler de ça et c'est important qu'on puisse ouvrir des espaces pour parler de ça à tout âge. Alors le planning familial, c'est une association aussi qui est féministe. Alors c'est une association militante va aussi lutter parce que le droit des femmes, le droit des minorités, etc., c'est des fois remis en question. Et pour moi, c'était important aussi de travailler dans un espace qui fait sens pour moi. Donc on va aussi travailler pour l'égalité homme-femme. Et on va parler du genre. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du genre ? Oui, masculin, féminin. En fait, pour nous, le genre, c'est quand on met des lunettes et qu'on regarde la différence entre les hommes et les femmes et qu'est-ce qui se passe entre les hommes et les femmes ? Est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est inégal ? Et par exemple, on peut discuter un petit peu de ça ensemble sur l'égalité homme-femme.
Allons-y. Justement, l'égalité homme-femme. En off, vous m'annonciez une date tout à l'heure. le 5 novembre, ça y est, les femmes travaillent à l'œil. Vous savez tous qu'il y a des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. À poste équivalent, on peut considérer qu'une femme, le 5 novembre, a eu son salaire à l'année, tandis qu'un homme touchera son salaire jusqu'au 31 décembre. C'est bien ça.
Du coup, à partir du 5 novembre, au même poste, à même qualité, à partir du 5 novembre, les femmes, elles sont plus payées jusqu'à fin décembre. C'est parce que les femmes, elles sont moins payées pour le même poste et les mêmes compétences. C'est des statistiques. En fait, je ne sais pas si vous connaissez Simone de Beauvoir. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit, Simone de Beauvoir ? La phrase qu'elle a dit, elle n'est pas évidente. On ne naît pas femme, on le devient. Et elle n'a pas dit, mais elle aurait pu le dire, on ne naît pas homme, on le devient. En fait, les hommes et les femmes, au départ, ils sont pareils. Mais la société, elle va donner des manières différentes à éduquer les hommes et les femmes. Par exemple, parmi les garçons là, qui sont là, il y a beaucoup de garçons quand même, est-ce qu'il y en a beaucoup qui, quand ils étaient petits, ils ont joué à la poupée ? Qui a joué à la poupée en tant que garçon quand ils étaient petits ?
C'était trop bien.
Il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont joué à la poupée. Au Barbie, non ? Non, aucun garçon n'a joué à la poupée au Barbie. Ok. Et les filles, est-ce que vous avez joué avec des camions ? Est-ce que vous avez joué avec des voitures ? Un petit peu plus.
Ah, une phrase, parce qu'on a des frères.
Si on a des frères, on va plus jouer avec les jouets de ses frères. Mais si on est une fille toute seule ou on n'a que des sœurs, on aura moins de... Est-ce qu'il y a des jouets qui sont spéciaux pour les filles et des jouets spéciaux pour les garçons ?
Ben si. Mais quand vous avez dit, les filles, vous avez déjà joué avec des voitures et tout. Les filles aussi, elles ont déjà conduit des voitures. En gros, des grandes filles ont conduit des voitures. C'est presque pareil.
Mais oui, tu as raison, les filles, elles conduisent des voitures.
Alors, est-ce qu'il y a donc des jeux qui sont spécialement faits pour les filles et d'autres spécialement faits pour les garçons ? Alors, vous êtes d'accord avec cette affirmation-là ? Est-ce qu'un garçon peut jouer avec des jeux faits pour les filles ?
Alors, super. Dans l'idéal, oui, n'importe quel jouet peut être joué par un garçon ou par une fille. Mais c'est vrai que si vous regardez les magazines à Noël où il y a des jouets pour les enfants, il y a quand même des pages roses, des pages bleues, avec plus des jouets cuisine, dinette, ménage pour les filles, et plus des jouets de super-héros ou de voitures pour les garçons. Bah, tout ça, ça va avoir une influence après dans la manière dont on se construit. Par exemple, comme je parlais de cuisine dinette, est-ce qu'à la maison, les garçons chez vous et les filles chez vous, ils font les mêmes tâches, ils font autant de tâches ménagères, ils font aussi la cuisine, etc.
Ah, moi, à midi, quand je rentre chez moi, ma sœur, elle me dit, elle sort la vaisselle, enfin les assiettes et tout. C'est le seul truc que je fais.
Moi, mon père, il fait plus à manger que ma mère.
Moi, je dois faire entièrement ma chambre.
Je vois que quand même, dans les familles à la Camarie, il y a un partage des tâches, c'est super. Mais dans les statistiques, à partir du moment où il y a un enfant, dans les familles, ben 80% des tâches ménagères sont faites par les femmes. Et oui, si, si. Et si je reviens rien juste sur le moment qu'on vient de passer, par exemple, est-ce que vous avez remarqué s'il y a beaucoup de filles qui ont répondu au micro, là ?
Non.
Oui. Moi, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de garçons qui avaient levé la main et qui avaient répondu. C'est parce qu'elles sont timides. Est-ce qu'on est timide ou est-ce que petit à petit, on dit aux filles qu'il faut qu'elles soient sages, qu'elles soient réservées, qu'elles ne parlent pas trop ? Alors, je vais vous poser une autre question. Par exemple, est-ce que les garçons ils sont meilleurs en maths que les filles ?
On est tous égaux face aux maths, c'est ce que j'ai entendu.
On est tous égaux.
Non, pas du tout.
Non, en fait, on n'est pas tous égaux, parce que en fait, nous, on est tellement trop forts, mais tellement on est forts, on est trop forts.
Chacun son intelligence.
Alors, cette question sur les maths, quelle est-elle ?
Einstein, c'était un garçon. Là.
Moi, je dis que c'est les filles, parce que ma prof de maths, c'est une fille.
Moi, je dis c'est les filles parce que dans ma classe, il y a des filles qui sont en télo.
Alors, moi, dans les statistiques que j'ai vues, en fin de troisième, eh ben, les garçons et les filles ont acquis le même niveau de compétence en mathématiques. Donc, il n'y a pas un cerveau qui est meilleur en maths ou meilleur en une autre matière. Est-ce qu'il y a des métiers pour les filles ? Est-ce qu'il y a des métiers pour les garçons ?
Il y a des métiers que les filles ne peuvent pas faire.
Pourquoi ?
Est-ce que j'ai déjà vu une fille garde du corps ? Non.
Non, je pense que tous les métiers sont comme pour les femmes et comme pour les hommes.
C'est possible qu'il y ait une fille qui est plombier et un garçon qui est cuisinier.
Ces images-là que vous donnez, ça s'appelle des préjugés, des stéréotypes. Et en fait, le fait de reparler toujours de ces préjugés, de ces stéréotypes, ça fait que ça enferme un peu. Et que les filles, par exemple, elles n'osent pas aller vers les métiers qu'elles veulent. Elles n'osent pas aller... vraiment exercer le métier qu'elle désirerait. Par exemple, je sais pas, vous dites, tu m'as dit, il y a ta prof de maths. Est-ce que, par exemple, au collège Jules Vallès de la Ricamarie, les profs, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes ?
Il y a plus d'hommes.
Ça a l'air d'être pareil.
En prof de français, il y a deux profs, il y a deux femmes. Un homme, en maths, il y a deux hommes et une femme.
Moi, je dis c'est les filles qui sont plusieurs. Parce qu'il y a des surveillantes, par exemple, qui sont plusieurs par rapport à les garçons.
En tout cas, il y a des filières où il y a plus de femmes. Par exemple, le sanitaire et social. Quand on aide les personnes, on fait du soin en personne. Et ben ça, il y a plus de femmes. Et par exemple, les métiers du bâtiment. Maçon, par exemple. Eh bien, il y a plus d'hommes. Pourtant, il y a des femmes qui veulent être, il y a des femmes maçons, il y a des femmes qui sont charpentières, elles veulent être charpentières, elles veulent être maçons. Mais le fait de parler comme ça en disant que c'est trop dur pour les femmes, etc., ben, ça les empêche d'avoir accès à ces métiers-là. Et même, vous en parlez, mais même aussi les adultes, parfois, ils, de leur manière d'en parler, ben, on se dit, ah, ben, ça va pas être possible pour moi, je vais faire un métier de fille. Alors que normalement, tous les métiers sont aussi accessibles pour les filles que pour les garçons. Par exemple, comme tu disais, gardien devant les magasins. Pourquoi une fille ne pourrait pas faire gardien devant un magasin ?
Parce qu'en fait, si les voleurs ils viennent et ils voient une fille comme sécurité, et ben ils vont la taper.
Du coup, il y a cette notion de force physique. Il y a ce côté force physique qui peut être un des préjugés, mais on peut passer aussi au-delà de ce préjugé-là. Et il y a un métier aussi qui me paraît intéressant d'en parler, c'est le métier de qui porte un nom, sage-femme.
Alors effectivement, il y a des métiers où on ne connaît même pas le nom de l'équivalent au masculin. Ça peut être dit sage-femme, mais on me dit aussi mailloticien. Mais vous, et vous en connaissez des hommes qui sont sage-femmes ?
Non.
Dans les métiers du soin, il y a très peu d'hommes. Pourquoi ? Parce que ben, dès le plus jeune âge, voilà, on a dit à la petite fille que c'était bien de prendre soin, de s'occuper, de faire la dînette, de s'occuper des poupons, des poupées. Et ben, ça, petit à petit, ça va faire qu'elle va grandir dans cette idée-là. Dans cette idée-là. Mais attention, les inégalités hommes-femmes, c'est dur pour les filles, mais c'est aussi dur pour les garçons. Par exemple, un garçon, est-ce que ça a le droit de pleurer ?
Oui, quand tu étais petit. Ah. T'es sorti du ventre à ta mère, t'as pleuré, t'étais obligé de pleurer.
Je parle pas en tant que bébé, je parle aujourd'hui, quand on est collégien, quand on est collégien, quand on est adulte, est-ce qu'un homme a le droit de pleurer ?
Oui, parce que s'il y a une chose qui le touche, bah, il est forcément obligé de pleurer. Enfin, ça se contrôle pas, si tu pleures, tu pleures.
Et souvent, ils se contiennent et ils pleurent pas en face des gens, ils pleurent soit chez eux, soit quand ils sont tout seuls.
Ouais, parce qu'en gros, même si on a 40 ans, on peut pleurer parce que notre mère, elle est morte ou un truc comme ça.
On peut tous pleurer parce que, comme par exemple, mon père, quand il voit sa mère, il pleure parce que ça fait longtemps qu'il ne la voit pas.
D'accord, donc vous êtes des modèles d'hommes qui s'autorisent à pleurer parce que c'est important aussi de pouvoir pleurer quand on a besoin de pleurer. Mais comme tu as dit, parfois, il y a certains hommes, ils vont pas oser pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on va leur dire, attention, c'est pas très homme, c'est pas très viril de pleurer. C'est la honte, voilà. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a eu dit d'autre ? Alors, et par exemple, dans le milieu du sport, est-ce qu'il y a l'égalité dans le milieu du sport ? Est-ce que, oui ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de footballeuses ?
Oui.
Oui.
Wendy Renard ?
Oui.
Le Sommer ? Henri ? Et je connais que ça. Après.
T'en connais combien des joueurs de foot garçons ?
Garçons, je voulais que je vous incite. Ronaldo, Mbappé, Messi, voilà. Neymar.
Et on connaît toute la liste. On connaît aussi toute la liste. Et malheureusement, on connaît toute la liste. Et je suis un peu comme toi. Moi, je connais aussi que 3 joueuses de foot de Lyon et de l'équipe de France. Et je connais toutes les équipes de foot de France depuis 82.
Voilà, pareil pour le vélo, etc. Vous savez que parmi les grands sportifs, il y a 2400 femmes et 4600 hommes. Et pour les footballeurs, ben ils sont payés combien les footballeurs par mois, les grands footballeurs ? Oh, très très cher. Mais la meilleure des footballeuses, elle est payée combien ?
Parce que les garçons, ils sont plus forts.
Parce que les hommes, ils ont plus de maîtrise et d'expérience comparé aux femmes.
Parce que les gens, ils se sont donné une image que les hommes, ils savaient plus jouer que les femmes.
Mais c'est le même sport sur le monde des hommes, les professionnels des hommes et des femmes, c'est le même sport au final, avec des compétitions qui sont similaires. Pourtant, même on voit dans les stades, il y a beaucoup moins de monde. Et puis, les affluences télé, il y a beaucoup moins de gens qui regardent le sport féminin à la télé que le sport masculin.
Ah, c'est beaucoup moins médiatisé. Par contre, on a de la chance à Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir un match de foot à Saint-Étienne, mais il y a quand même plein de filles dans les tribunes et ça fait plaisir. Alors, elles peuvent aller ou voir un match de foot sans le mari, entre copines, c'est possible.
En fait, peut-être les filles viennent au match de foot pour séduire des garçons.
Oh, si les filles viennent voir un match de foot des garçons, c'est pour prendre du niveau et tout, comme ça ils voient le talentueux niveau des garçons.
Oh, okay. C'est un peu sexiste là, c'est...
Oui,
c'est...
ça s'appelle des préjugés sexistes,
voilà.
Exactement. Et par exemple, dans le milieu de la musique, Est-ce que vous connaissez beaucoup de rappeuses, autant de rappeuses que de rappeurs?
Bah, comme femme, il y a Diams.
Il y a Weshden. Weshden.
Il y a Marwa Loud, Weshden, Diams, l'autre là, comment elle s'appelle il y en a Kamoura.
Quatre? Il y en a quatre?
Il y a Eva Queen.
Ah oui, vous en connaissez quand même pas mal.
Il y a une fille, elle s'appelle Vito, il y a Inès, il y a plein de drapeaux.
Ah oui.
Alors qu'ils ne sont pas forcément, dans tous les gens que vous citez, ce n'est pas forcément des rappeuses. C'est des chanteuses quand même qui chantent des chansons un peu sur les sentiments humains, avec des refrains un peu mielleux. Et la question, c'est qu'effectivement, dans l'image que vous avez, le rappeur est un gars viril qui a une grosse voiture et qui fait la bagarre. Et la rappeuse, eh ben, elle est dans son canapé en train d'appeler son petit ami ou sa copine pour dire qu'elle s'est séparée.
Alors, un dernier exemple, là c'est un petit peu moins drôle. Dans les couples, parfois, eh ben, tout se passe bien et parfois ça se passe mal. Ça s'appelle de la violence, violence conjugale. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à très loin. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de, par exemple, de personnes qui décèdent, qui sont hommes ou qui sont femmes dans un couple chaque année?
Les femmes, elles meurent plus que les hommes.
Bah, moi, je dis ça à peu près pareil parce que déjà, il y a aussi beaucoup de femmes qui tapent leur mari,
leur amoureux.
Je sais pas, parce qu'ils écoutent pas, parce que peut-être, je sais pas pour quelle raison, mais ça arrive aussi souvent. Il y a aussi des femmes qui tapent aussi leur mari.
Moi, je pense que c'est les femmes, parce qu'en général, les hommes, ils se croient plus forts que les femmes, du coup, bah, ils vont plus les taper.
Laisser les hommes qui vont exercer plus de violence. Alors, quand on dit ça, on ne dit pas que tous les hommes sont violents, attention. Hein. On dit que la société construit les hommes et les femmes de manière à ce que on va un petit peu moins rien dire à la violence des hommes. Et petit à petit, ce qui fait que chaque année, par exemple, l'année dernière, il y a eu 122 femmes qui sont mortes sous les coups du conjoint et seulement 22 hommes. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est que vous êtes les délégués de classe. Si on avait envie que ça change tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans le collège pour qu'il y ait un petit peu plus d'égalité homme-femme?
Faire des affiches.
Super.
Des affiches.
Il y aurait marqué quoi sur les affiches?
Il y aurait marqué l'égalité homme-femme, tous égaux, femmes et hommes pareils. Il y a plein de trucs après, tu vois, c'est la vie, hein. On ne peut pas changer tout ce qui est la vie. La vie, les femmes, ils se font taper. Les hommes aussi se sont tapés par des filles. Et après, c'est tout. Hein.
Alors là, tu t'écartes un peu du sujet. Parce que, en fait, la vie, ce n'est pas la violence. La vie, c'est aussi le fait de se traiter mutuellement de la meilleure des façons possibles, c'est-à-dire se respecter et de se traiter de manière égale. Qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon, on mérite le même respect de n'importe qui.
La violence, de toute façon, c'est interdit. On n'a pas le droit de taper quelqu'un, on n'a pas le droit de taper une fille ou un garçon. On ne peut pas dire c'est comme ça. Vous, les délégués, là je vous parle, les délégués, c'est à vous de faire changer les choses. On n'a pas le droit de dire c'est comme ça. Depuis tout le temps, les filles, elles font le ménage, les filles, elles se font malmener dans le couple. Et c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Si vous pouvez changer des choses, vous pouvez faire des affiches, faire des chansons de rap. Je suis prête à les écouter si vous me les envoyez au planning. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire au collège?
Par exemple, en classe, on peut mélanger les garçons et les filles qui sont égaux, pas plus de garçons, pas plus de filles.
Voilà.
Faut mettre les garçons et les filles ensemble et en gros, faut faire des réunions chaque semaine pour voir où on en est avec des filles et tout.
Oui, faire le point de qu'est-ce qui se passe dans le collège, est-ce qu'il y a des difficultés? Super.
Si vous apercevez d'une situation de violence, d'inégalité, qu'une fille soit traitée différemment parce que c'est une fille ou maltraitée par des personnes, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Lorsqu'on est témoin de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
D'en parler, dire à la police, appeler un numéro exprès pour ça.
Alors appeler finalement, en parler. Quand on est témoin d'une chose comme ça, il faut en parler, indiquer, conseiller aussi. On en revient un peu aux questions et la question du planning familial de tout à l'heure, de la présentation, c'est que vous, là, qui assistez à cette émission-là, et puis les auditeurs qui vont entendre cette émission-là, si jamais un de vos amis, une de vos copines va vous parler de problèmes, finalement, qui a trait à la sexualité, à l'intimité, et ben, vous pourrez aussi lui expliquer qu'il existe des structures comme le planning familial et en parler, conseiller. Ça s'appelle voilà, des relations humaines, discuter et puis être bienveillant avec les autres.
Il y a aussi un code qui existe, c'est à la pharmacie. On demande à la dame ou au monsieur qui est au bord, on lui dit masque 19 et elle devrait réagir. Et c'est un truc un peu discret qu'on peut faire.
Elle contacte la police pour un fait de violence conjugale.
S'ils ont bien été formés et qu'ils sont au courant.
D'accord.
C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pharmaciens ou pharmaciennes qui sont au courant de ce code, disons. Et c'est pour que, par exemple, les femmes qui sont en compagnie de leur homme peuvent vite... Normalement, ils les mettent à côté le temps que leur homme il est encore à côté. Après, ils appellent la police pour écarter l'homme et faire...
Et est-ce que tu crois que les collégiens du collège Jules Vallès, ils sont au courant, par exemple, de ces petites choses qu'on peut faire ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous donner des petits outils pour qu'on puisse se dépatouiller d'histoires de violence ?
Bah oui, il y a le masque 19 et il y a aussi le point noir au milieu de la main.
On arrive à la fin de cette émission. Moi, je pense qu'on va se quitter ici. Ça a été fourni. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Fabienne au sujet du planning familial ? On peut prendre trois questions.
À Tarentaise, le planning familial, il se trouve où plus précisément ?
Alors, le planning familial, il se trouve... Est-ce que tu vois où c'est la Comète ? La Comète, c'est un bâtiment qui est l'ancien théâtre qui s'appelait la Comédie. Est-ce que tu vois où c'est la médiathèque, cinémathèque ?
Vite fait.
Bah, c'est entre la Comédie et la médiathèque, oui, et vers la Poste.
Quand tu redescends de la médiathèque cinémathèque, on est dans une petite rue, ce qui permet que quand on vient, eh ben, c'est assez discret.
Est-ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur ? Et si vous êtes à l'intérieur, est-ce que vous êtes dans l'accueil, au moins on sait que c'est vous ou un truc comme ça ?
Alors, vous pourrez toujours demander Fabienne et au téléphone ou là-bas, je suis souvent à l'accueil, donc je vous saurez que c'est moi, on s'est déjà vu. Et puis, si je ne suis pas là, mes collègues, elles sont super sympas aussi, mais je suis souvent à l'accueil, je suis souvent là pour vous accueillir. Si vous avez n'importe quelle question, si vous venez chercher des préservatifs, voilà, vous pouvez prendre des préservatifs et repartir, il n'y a pas de souci avec ça. Pour les mineurs, c'est important d'avoir accès à des préservatifs. Pourquoi ? Parce que au début, on n'est pas obligé d'avoir envie de faire l'amour, mais on peut au moins savoir comment ça se met un préservatif. Il y a un mode d'emploi, il y a même un sens. Et puis même si le préservatif il casse, comment ça se passe ? Parfois même, on peut rigoler un petit peu avec. Comme ça, au moins, on est hyper à l'aise avec le préservatif la première fois qu'on en aura besoin. Donc oui, pour les mineurs, bien sûr, c'est toujours gratuit au planning familial.
En gros, il y a quelqu'un qui va nous apprendre comment on met une capote.
Ça ne sera pas un docteur, parce qu'en fait, nous, on considère que la sexualité, ce n'est pas forcément une maladie, c'est quelque chose qu'on doit discuter tous ensemble. Donc ça peut être moi qui t'expliquera effectivement comment on met une capote pour les garçons, mais aussi une capote pour les filles, puisqu'il y a des capotes pour les filles.
Vous êtes ouvert le lundi, le mardi, le mercredi ?
On est ouvert tous les jours, donc on est ouvert à peu près tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 17h et le mardi et jeudi, le mardi jusqu'à 18h30, le jeudi jusqu'à 19h30. Vous pouvez aussi venir entre midi et 2, si vous aviez la possibilité, pendant les vacances scolaires. Et puis vous pouvez toujours nous appeler, comme ça vous dites est-ce que vous êtes ouvert et vous passez. Et puis parfois on s'arrange, il faut vous attendre 5 minutes, donc ça, on vous attendra 5 minutes.
Mais normalement, c'est pas illégal de donner des capotes et tout ça à des mineurs ?
Pourquoi ce serait illégal ? En fait, l'idée, c'est que les mineurs, ils puissent avoir l'information et se protéger s'ils en ont besoin. Parce qu'un mineur, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, quelqu'un qui n'a pas de droit. Vous avez des droits, vous savez, vous avez le droit de faire des choses, d'avoir droit à accès à l'information. C'est pas parce que vous êtes mineur que vous ne pouvez pas aussi, par vous-même, savoir des choses sur votre corps, sur vos relations, etc. Donc, c'est pas parce qu'on donne des préservatifs qu'on encourage à ce que les mineurs aient une sexualité, c'est qu'on les encourage à avoir plein d'informations quand ils en auront besoin.
Est-ce que vous avez plusieurs tailles de capotes ?
C'est une très bonne question. C'est une question qu'on pose souvent. Oui, c'est important. Effectivement, il y a plusieurs tailles de préservatifs. Mais tout ça, peut-être, je reviendrai soit au collège, soit vous venez me voir pour que je vous explique un petit peu ce que c'est la taille, est-ce que c'est la longueur, est-ce que c'est la circonférence, comment on fait pour choisir la taille. Mais oui, il y a plein de tailles. Et si vous voulez, on pourra regarder. Enfin, on regarde pas, mais on en discute. Ce que je constate quand même, c'est que les garçons qui ne posent des questions.
Voilà. Alors, on va terminer cet enregistrement d'émission de radio. Vous pourrez retrouver donc cette émission de radio sur l'antenne de Radio Ondaine, sur notre site internet. Vous pouvez dire aussi, en tant que délégué de classe, à vos camarades que vous avez participé à cette action-là et qui pourront écouter. On vous donnera via le collège, via votre CPE ou votre assistante sociale, on vous donnera tous les moyens d'écouter cette émission-là. Merci Fabienne d'être venue présenter le planning familial. Merci à vous d'avoir assisté et puis bonne fin de journée. Journée de formation des délégués.
Merci tout le monde.
Au revoir.
Merci.
Pour comprendre cette journée de formation des délégués pour ces collégiens du collège Jules Vallès de la rue Camarie, rencontre avec quatre d'entre eux, Dorsaf, Célia, Ahmed et Yaya.
Représenter notre classe.
D'accord. Être porte-parole de nos camarades.
Être le bras droit du professeur et le bras droit des élèves.
C'est avoir la confiance de des élèves et représenter la classe.
D'accord. Vous avez fait votre entrée scolaire au mois de septembre. Pourquoi on se présente pour être délégué de classe déjà ?
On se présente parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se présenter. Parce que peut-être qu'on se sent un peu mieux à l'aise à l'oral.
Moi, je me présente pour bien présenter ma classe, pour qu'elle soit très bien placée, et voilà.
Alors maintenant, vous faites une journée de formation sur les délégués de classe. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin, ici, au Pôle Jeune de la Récamarie ?
On a posé des questions. Enfin, on nous a posé des questions et on y a répondu, des questions sur les réunions, par exemple.
On devait faire un groupe. Notre CPE, Madame Guézou, nous a mis en groupe et on devait présenter nos camarades pour se sentir plus à l'aise à l'oral.
On s'est présenté pour mieux se connaître, pour connaître mieux l'autre.
On a simulé un conseil de classe.
Alors pourquoi c'est important d'être délégué de classe et pourquoi est-il important d'avoir des délégués de classe dans une classe, justement ?
Pour donner des informations quand il n'y aura pas un prof ou quand il y aura un devoir à faire sur un site.
C'est important d'être délégué de classe parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut l'être. Et c'est important que nos camarades choisissent le délégué de classe parce que pour eux, c'est celui qui représente le mieux l'école, enfin la classe.
On s'est présenté pour être délégué parce que tout le monde... C'est pour faire passer tous les messages qu'il y a à faire passer avec des professeurs, par exemple.
Cette émission que vous venez d'entendre fait partie du projet Parole de citoyen Radio Citoyenne, piloté par Radio Ondaine et financé par les services de l'État et de Saint-Étienne Métropole. Il consiste en la mise en place de rencontres radiophoniques dans les quartiers dits prioritaires au titre de la politique de la ville.